I don't want a lot for Christmas.
CSCH et Maes, mais ils ont pas fait de chanson de Noël.
J'allais dire, c'est quoi la chanson de Noël?
Ils ont pas fait de truc de Noël, donc je suis vraiment mal. Mais tu vois, ils ont pas fait de chanson de Noël, pas de chanson de Noël, tu vois.
Pas de chanson de Noël.
Pas de chanson de Noël.
Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verduzier.
Kélis.
Kautar Archi.
Anne-Laure Pinault.
C'est parti!
Si l'on faisait le bingo de l'année 2019, on y trouverait sans doute des « on ne peut plus rien dire », des signaux faibles de radicalisation, mais aussi des hommages à Toni Morrison et Agnès Varda. Alors on va revenir sur le « best et le worst of », c'est-à-dire le meilleur et le pire de l'année, avec toute l'équipe au grand complet. Salut!
Coucou!
Salut!
Bonjour!
Hello, hello!
On va faire un petit tour de table d'abord pour évoquer votre année sur le plan personnel et le plan professionnel. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être toi Anne-Laure, alors ton année.
Moi, une super bonne année sur le plan perso. J'ai vécu des super trucs avec mon amoureuse et j'ai eu un gros climax avec mon filleul qui m'a fait un petit truc genre « Même si Macron veut pas, nous, on est là !»
Oh,
tellement mignon. Je parle bébé parce que cette année, nous, les lesbiennes, on a repris encore plein la gueule avec cette histoire de PMA pour toutes. Voilà, sur le plan des annonces gouvernementales, ça cogne un peu avec la vie professionnelle. Enfin, on est plusieurs pigistes dans la team, là. Donc, la réforme du chômage et la précarisation des pigistes, ça nous a bien touchés.
On lâche rien.
Bah voilà, avec la réforme de la retraite, on se dit qu'on va finir toute vieille sous un pont.
Je te jure.
Sororité.
Sororité. Mais bon, on est tous ensemble. Donc, on va dire que ça va aller.
Toi, Kémis ?
Ouais, alors c'est une année qui a été assez turbulente, je sais pas ce qu'il y avait dans les étoiles, mais en tout cas, ça a été un peu les montagnes russes, mais il y a eu aussi des beaux moments qui étaient vachement intéressants. Je suis trop contente parce que mes poèmes ont été récités par des comédiennes, et puis je suis passée sur les planches du cabaret de poussière pendant 3 soirs,
bravo.
Et ça c'était vraiment un truc exceptionnel. Donc, j'étais super stressée, mais c'était quand même super. Je suis super contente. Et puis, je participe pour la première fois à un podcast politique du côté de chez Sam avec Nouvelles Écoutes. Et ça me fait trop plaisir.
Oui, écoutez-le.
Trop de la chance.
Et toi, Pauline, alors ?
Oui, donc moi, cette année, en fait, j'ai travaillé avec mon équipe, que je vais citer, mais Myrti Picot, Quentin Girard, Antoine Roux et Dylan Calves. sur un numéro anniversaire, en fait, de la revue L'Imparfaite, qui fête ses 10 ans.
Wow.
Donc, c'est un magazine érotique, politique, féministe, qui sortira début janvier. Et donc, je suis hyper heureuse de ce numéro, qui parle notamment de dominatrice, de striptease, du labeur, entre guillemets, que c'est que de performer la féminité. Ça, c'est les mots d'une des autrices que nous publions. Et vous pouvez déjà vous procurer le magazine en pré-vente. Donc ça, c'était l'instant promo. Sinon, je suis toujours dans mon collectif de journalistes indépendantes, les Journalopes. Plus que nécessaire en ces temps de réforme de l'assurance chômage et de l'institutionnalisation de la précarité. Je suis d'accord avec Anne-Laure. Et côté perso, donc big move, j'ai emménagé avec un homme.
What? Alors, félicitations et bon courage.
Ouais. Donc, je suis en train d'élaborer un tableau spécial charge mentale avec la liste des tâches domestiques où chacun met une petite croix à chaque tâche effectuée. Mais ça, c'est déjà de la charge mentale. Mmh. Donc, je vous en parlerai peut-être plus à la rentrée.
Ouais, good luck.
Et toi, Clémentine ?
Alors moi, il y avait un peu à boire et à manger dans cette année, mais en tout cas, j'ai écrit un livre, bon, qui n'est pas encore publié, mais qui s'est en cours. Donc voilà, mon life goal est atteint. J'ai aussi eu la chance d'interviewer Star Oak, donc la grande sorcière du féminisme mondial.
Well, we are part of the earth. We're not separate from the earth. And we are actually natural creatures.
Et là, je viens aussi d'écrire un article sur les hommes violents pour Slate. Donc voilà, je suis assez contente professionnellement, en tout cas. Mais c'est vrai que je trouve que 2019 a été une année extrêmement rude politiquement, avec un président qui démantèle absolument tout, tout en prétendant que en fait on ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas ce que sont ses réformes, et que en fait tout ça n'est qu'une question de communication et ça n'a rien à voir avec le fond.
On est cons et on est pauvres,
voilà,
c'est génial.
C'est ça. Donc je trouve ça assez écœurant. À tout ça s'ajoute une apocalypse climatique imminente. Du coup, certaines de mes amies ont eu la bonne idée de m'offrir, puisque c'est mon anniversaire sous peu, le cadeau parfait, une heure dans un caisson d'isolation flottant.
C'est quoi ?
Ah, il paraît que c'est pas flippant.
Moi, je vous raconterai. J'espère qu'en 2020, j'aurai droit à passer une heure dans une anger room. C'est une pièce où on a le droit de tout péter. Voilà, je vous recommande comme cadeau. Nécessaire. Et toi, Kaoutar, cette année ?
Une année politique que j'ai trouvée très, très difficile aussi. Beaucoup de révoltes, un grand sentiment d'impuissance qui est entretenu et cultivé par le gouvernement, mais aussi ce podcast que je rejoins.
Oui.
Et j'en suis très heureuse. Beaucoup de réunions, beaucoup d'AG, des grèves. J'espère beaucoup de grèves. Et cette idée que ça continue et qu'on va devoir réinventer de nouvelles formes de vie, de travail, de coexistence. Et très certainement que les chercheurs précarisés vont rejoindre les journalistes précarisés.
Sans doute.
Voilà, ce serait très... Je le dis parce que c'est assez terrible et révoltant. Donc,
On monte un squat, toutes. Ouais.
Bon, donc on s'est toutes fait des ulcères cette année. Et alors, si vous avez des vacances d'hiver qui arrivent, qu'est-ce que vous allez faire ? Donnez-nous un petit aperçu, peut-être toi, Anne-Laure.
Un petit road trip dans la France profonde, entre le Havre et Angers,
okay.
Pour la belle famille, la famille, les amis, la raclette et maman, j'ai raté l'avion.
Oui.
Oui.
Salut, je m'appelle Mitch Murphy, j'habite en face.
Je vais partir avec un peu trop de livres, comme chaque fois.
Jamais trop.
Et je vais sans doute prendre les embruns de Wesson plein dans la gueule avec des copines. On a décidé de s'exiler là-bas et sans doute qu'on ne reviendra pas.
Ok, bonne année.
Et toi, Clémentine, tu vas faire quoi ?
Donc moi, la même chose à chaque Noël que je passe généralement au lit avec toutes les productions qualitatives de la BBC, donc adaptation en vrac de Jane Austen et Agatha Christie.
Bravo, bravo, des vrais classiques là.
J'aimerais bien aussi lire Kate Tempest parce que ça fait un moment que j'ai envie de la lire. Également Emma Baker et son essai sur une maison close en Allemagne. Sans oublier l'enquête au long cours de Ronan Farrow sur l'affaire Weinstein qui s'appelle Les Ferters. Voilà, super programme.
Moi, je suis en train de lire Emma Baker justement. Je trouve ça génial. Donc, le sujet est sulfureux, mais au-delà de ça, j'ai été charmée par ses talents de romancière. Et on est vraiment embarqué dans ce monde de la prostitution en bordel. Et je trouve qu'elle évite l'écueil du regard trop complaisant qu'elle aurait pu avoir en tant que prostituée, entre guillemets, par choix, ce qui n'est pas forcément le cas de ses collègues. Bref, parenthèse fermée, mais moi, j'ai adoré ce livre.
Et toi, pour les vacances ?
Ouais, en fait, j'aimerais bien continuer à lire sur le sujet du travail du sexe. Et sinon, pour moi, les vacances, en fait, je vais me passer de sapin, de dinde et de tablé à 40 parce que je pars en voyage au Vietnam avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc c'est un peu le dernier voyage familial avant, je sais pas, qu'on soit tous casés ou ailleurs.
Avant l'apocalypse.
Avant l'apocalypse.
Ton empreinte carbone, meuf. Et voilà. Toi, Kémis ?
C'est super cool, je trouve, que tu partes en voyage. Je vais suggérer ça à ma famille pour les années qui suivront. Sinon, moi, ça va être manger. Et parce que bon, c'est quand même ça les fêtes de fin d'année.
Ouais,
je vais oublier ce que c'est la fin. Et puis, je pense que je vais écrire un petit peu. Et toi, Kaoutar ?
Avant l'apocalypse, quelques articles m'attendent encore.
Pas de repos alors pour toi.
Pas de repos. Non, ça va être hyper studieux à mon avis, mais j'aime bien, ce sera cool. Et j'espère surtout rattraper les nombreux albums de rap que je n'ai pas encore écoutés, mais dont j'ai beaucoup entendu parler.
C'est-à-dire ?
J'ai hâte de me plonger dans l'album de SCH que je n'ai pas bien écouté, dans l'album de Dino, pareil, que j'aime beaucoup et que je n'ai pas encore pleinement écouté. L'amour. Je vois pas, mais j'en entends parler tous les jours. Voilà, avant l'apocalypse, du rap, avant l'apocalypse, moi ça me va très bien.
Et après nous, le déluge.
Exactement.
Et alors justement, est-ce qu'il y a une chanson ou un ou une artiste qui a particulièrement ambiancé votre année, Anne-Laure ?
Ah bah moi, clairement, si c'est l'apocalypse, moi je veux bien la passer avec Aya Nakamura. Parce que franchement, je trouve que cette année, on l'a entendu partout, chez tout le monde. J'ai entendu dire que même des gamins de 4 ans la connaissaient vachement
bien. Oui, je confirme.
Ce qui est quand même
succès total.
Ouf, ouais. Donc ouais. Aya Nakamura.
Moi, c'était Aya Nakamura aussi, avec Pookie surtout.
Mais ouais. Bla 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 Pookie,
ferme la porte à la Pookie dans le sac. Et puis sinon, en moins festif, les paroles des manifestantes chiliennes qui dénoncent les violences. Donc l'hymne, ça s'appelle « Un violador en tu camino », « Un violeur sur ton chemin ». Ça a été repris dans le monde entier, dans les manifestations. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a marqué cette année, pas musicalement parlant, mais disons dans les manifs en tout cas.
Et toi, Clem ?
Alors, pour rester dans le thème, je pense que ce serait Balance ton quoi d'Angèle. Mais sinon, c'est vrai que je trouve que ça a été quand même une grande année pour la chanson française au sens large. Donc, effectivement, Aya Nakamura, Angèle, Pomme, Isult, Aloïs Sauvage, etc., etc. Et toi, Kaouta?
Aya Nakamura pour l'originalité, bien sûr. Okay. Pour le côté avant l'apocalypse.
Ça fait consensus.
Ça fait consensus. Mais aussi parce que j'ai trouvé très intéressant, ça a été à mon avis très désagréable pour elle, mais intéressant de voir à quel point la période de promotion a été dure pour elle, à quel point à chaque fois il s'est passé quelque chose. Et je trouve que ça permet aussi de mettre en valeur le fait que la production et la période de promotion artistique pour les femmes racisées, c'est toujours aussi une épreuve parce que à l'image, ce sont des nouveaux corps qui apparaissent, ce sont de nouvelles manières de s'habiller, de se tenir, de nouveaux codes sociaux, et on voit bien à quel point ça crée un conflit, et à quel point Aya Nakamura est souvent renvoyée à quelque chose d'une forme d'altérité, que ce soit Vincent Cassel qui à un moment donné lui explique que son nom est peu prononçable, que ce soit Nagui, grand spécialiste, pour ceux qui se souviennent de son expérience avec Fab, que ce soit dans l'émission C'est à vous, à chaque fois il s'est passé quelque chose. Et je trouve que ça dit bien la tension qui existe, donc et d'un point de vue musical et d'un point de vue politique. Aya,
ça on n'en veut plus en 2020.
Exactement.
Et toi, Kémis?
Alors, je voulais dire Aya, mais bon, puisque tout le monde l'a dit, je pense qu'on peut citer tout son album. Moi, j'aime trop la Dot et Pookie aussi.
Ouais.
Et selon Spotify, ceci n'est pas un podcast sponsorisé par Spotify, mais bon, c'est pas grave. Mon top titre, c'est Can't Hold Me de Emily King.
Oui, tu nous en avais déjà parlé.
J'en avais déjà parlé, ouais, en mars, il me semble. J'adore cette chanson, je l'écoute en boucle. Parce que c'est vraiment une chanson, je trouve, qui parle du fait de se dépasser, de justement de vaincre son syndrome de l'imposteur. Et j'en parlerai, c'est un gros truc chez moi. Donc, super chanson.
Alors, on va aussi parler du meilleur de l'année avant d'en venir au pire. Qu'est-ce que vous retenez dans les tops de l'année 2019, toi, Anne-Laure?
Alors, en gros, petite liste complètement déstructurée. Le décompte de nous toutes et la manif du 23 novembre,
ouais,
auquel on était toutes, je pense, autour de la table. Le discours d'Adèle Haenel.
C'est un système d'isolement pour ma voix. Chez lui, à disposition tous les week-ends. Il ne s'agit pas d'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit de quelqu'un, un homme adulte de presque 40 ans, qui se retrouve tout seul dans une pièce tous les samedis avec une jeune fille.
Évidemment, la super série Work in Progress qui parle d'une vieille butch dépressive hyper badass. Quand même, c'est tellement cool. Elle passe sur Canal Plus bientôt. La mise à l'ombre de Patrick Balkany.
Ouais. Ça,
enfin, c'est vrai. Enfin. Ça fait l'unanimité.
Ça, c'était tellement bon. Le film La Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. La première édition du Festival des Merveilles, Paris pour les artistes trans. C'est une initiative du comédien Océan et c'est super cool.
Super. Et toi, Pauline?
Oui, pour moi, ce sont aussi en fait les enquêtes journalistiques en fait post MeToo, notamment donc avec bien sûr les témoignages de Valentine Monnier et Adèle Haenel donc sur des faits présumés de violences sexuelles de la part des cinéastes Roman Polanski et Christophe Ruggia. Bref, la rigueur journalistique et l'écoute des femmes contre les discourances. Je pense que c'était bien de souligner aussi le fait qu'il y a encore des journalistes qui s'attellent au sujet.
Et oui, on n'est pas tous pourris. Hein, merci.
Ouais. Et on peut rappeler que c'est cette année, d'ailleurs, que l'ancien député Denis Baupin a été débouté et même condamné pour procédure abusive par la justice alors qu'il avait porté plainte pour diffamation contre les femmes qu'il accusait de harcèlement sexuel.
Foutage de gueule.
Ainsi que contre les journalistes de Mediapart et France Inter qui avaient enquêté. Donc c'est une décision qui a donné, je trouve, de l'espoir en fait pour les victimes et pour le journalisme, et on en avait besoin par les temps qui courent. Et toi, Clémentine?
Alors nous, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais je me réjouis encore une fois que le terme féminicide s'impose après des années de grand n'importe quoi. Et sinon, tu en parlais tout à l'heure, Anne-Laure, à propos du film de Céline Sciamma. Moi, je me suis pas mal demandé au cours de cette année ce que c'était vraiment que la sororité, puisqu'on en entend parler à toutes les sauces. Est-ce que c'est de l'amitié, de la solidarité? Et en fait, je pense que j'ai vraiment compris en voyant donc le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu temps d'en parler ici parce que le podcast n'était pas diffusé au moment de la sortie du film. Mais en gros, le film laisse la place à trois jeunes filles qui sont filmées seules, enfin ensemble, mais laissées seules au XVIIIe siècle. Et on voit comment elles vont s'occuper, s'amuser, s'entraider. Et en fait, je pense que j'avais jamais vu ça filmé comme ça avant de voir ce film. Et voilà, je pense que j'ai compris ce que c'était la sororité en voyant ce film. Et toi, Kémis?
Alors moi, l'un des tops de cette année, c'était de voir en fait Lizzo prendre toute sa pleine place.
Donc la musicienne.
La musicienne de pop. I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Lizzo, qui est une femme noire américaine grosse et foncée de peau, et ça fait plaisir de voir ses corps prendre leur place. Surtout que moi, je la suis depuis 2016, donc je suis trop contente qu'enfin, quand je dis Lizzo, les gens se disent « Ah mais oui,
t'étais
je connais !»
T'étais early adopter.
Mais grave. Et puis il y a Mati Diop aussi qui a gagné le grand prix du jury à Cannes pour son film Atlantique qui est absolument magnifique et qui fait aussi des émules aux États-Unis, et ça c'est vraiment un gros top, je suis trop contente.
Et toi Kaoutar, qu'est-ce que tu as retenu de cette année?
Alors comme il y a beaucoup de choses que je souhaiterais oublier de cette année, ce que j'en retiens en fait, principalement peut-être le dernier film que j'ai vu au cinéma, Les Misérables de Lajli. C'est un film sur lequel on pourrait vraiment discuter, il y a des choses bon sur lesquelles on pourrait revenir, mais symboliquement, le fait que ce film existe, le fait qu'il soit porté par cet homme-là, qui a cette histoire-là, dans ce contexte-là, qui nous ramène à un autre contexte, qui est celui de 2005, le contexte des émeutes et la manière dont tout cela nous a suivis et nous poursuit encore. Je trouve que c'est une belle performance artistique et aussi une manière de reposer un certain nombre de questions qu'on a du mal à aborder et que l'espace artistique pose malgré lui. Malgré lui, parce que la question du soutien n'est pas toujours très, très évidente. Mais la chose existe et c'est sa valeur première.
Oui. Et toi, Anne-Laure, est-ce que tu as des choses à rajouter à cette année?
Bah, juste, tu parlais de symbole. Pour moi, le symbole de Greta Thunberg en couve du Time, c'est super... J'ai trouvé ça vraiment fort, voilà.
Et toi, dans la pop culture, Pauline, qu'est-ce que t'en as retenu?
Oui, rapidement, sur le plan des représentations, je pense qu'il était important de citer aussi la série de Susanna Grant, Unbelievable, à laquelle on a consacré un épisode court qui marque un véritable tournant, à mon sens, dans la manière de parler des violences sexuelles dans une série policière grand public, avec des enquêtrices de feu dans les rôles-titres. Et on n'en a pas parlé ici, mais je voulais aussi citer le long-métrage de François Ozon, Grâce à Dieu, sur les victimes de prêtres pédocriminels, qui était aussi un très grand et important film de l'année, je pense.
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
C'était bouleversant, très documenté, et ça accompagnait cette parole au plus près, donc j'avais envie de le citer aussi. Et toi, Clémentine, encore autre chose?
Oui, alors dans la pop culture aussi, pour continuer, moi, j'en ai vraiment retenu la série Fleabag sur la BBC, qui est ma série préférée depuis très longtemps.
Ouais, c'est vrai qu'elle est cool, ouais.
Et justement, on a consacré un épisode à la saison 2, et heureusement, elle a triomphé aux Emmy Awards.
I am like the character Fleabag, simply because I wrote it. Sexually depraved, foul-mouthed and dangerous, and I always have to say to them, yes. You're absolutely right.
Donc sa créatrice Phoebe Waller-Bridge, pour moi c'est vraiment mon animal totem et j'aime beaucoup la manière dont elle parle de son processus créatif. Elle dit panique, espoir.
D'ailleurs, c'est elle qui va reprendre le prochain James Bond et le truc qui est ouf, c'est il y avait pas mal la rumeur que James Bond serait peut-être une femme, peut-être une personne racisée et elle a dit ah mais non mais en fait je vais rien changer. C'est un boulet, en fait. Donc, elle va pas changer James Bond, qui reste un connard. Moi, c'est vrai que je déteste James Bond, je déteste ce personnage.
Moi aussi.
Elle va juste changer tout le monde autour de James Bond. Donc, il va passer pour un con, je pense. Donc, ça, je pense que ça va être super.
C'est OSS 117, mais pour de vrai. Pour
le... C'est clair.
Ouais. On a hâte de voir ça. Et alors maintenant, il est temps de s'attaquer au lourd dossier des flops et du pire de l'année. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. On va essayer d'être brève. Toi, Kémis, vers quoi diriges-tu ton regard?
Moi, j'ai vraiment ces angoisses, mais pas juste des angoisses psychologiques individuelles, mais des angoisses au niveau politique, parce que voilà, il y a une montée de la entre guillemets précarité. Infligé aux toujours aux mêmes personnes. Il y a cette angoisse écologique de me dire, bah là, on est en train de manifester pour le maintien de nos retraites, mais en fait, ça se trouve, on n'aura pas de planète à ce moment-là. Et puis, voilà, en fait, c'est cette impression lancinante, et pas qu'une impression, en fait, où je vois qu'à travers le monde, les gens préfèrent les fachos et l'extrême droite à la gauche. Et je me dis, j'ai fait quelques études d'histoire et je me demande à quoi ont servi toutes ces études d'histoire et toutes ces politiques mémorielles si on refait les mêmes erreurs, en fait.
Et vers quoi tout ça va nous mener, surtout.
Exactement. Et donc, du coup, j'ai deux autres flops un peu précis. Le deuxième flop qui m'a rendu folle de rage, c'est le fait que Assa Traoré soit mise en examen par les gendarmes qui ont été responsables de la mort de son frère.
Donc Adama Traoré.
Adama Traoré, voilà, qui est mort il y a 3 ans, le 19 juillet 2016. Et c'est Assa Traoré qui va être sur le banc des accusés. Et ça, je trouve absolument ça inadmissible.
C'est le monde à
l'envers. Je pense que vraiment, les gens, ils ont pas de race, quoi. Enfin, bref. Et donc, et puis le dernier gros coup au moral, c'est vraiment l'élection de Boris Johnson. J'adore Londres, j'aime en fait l'Angleterre, j'aime le Royaume-Uni, et de me dire que en fait c'est encore un mec d'extrême droite qui arrive au pouvoir face à Jeremy Corbyn quoi, qui est genre pour moi juste, il est critiquable sur la question de l'antisémitisme, mais sinon son programme est magnifique, magnifique, et donc du coup ça me casse un peu le moral.
Hérisse le poil.
Voilà, c'est ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et toi, Kaoutar ?
Alors, je ne sais pas vraiment si on peut parler de flop, mais je parlerai plutôt de tournant qui met à rude épreuve la confiance ou l'espoir militant. Je reste particulièrement marquée par ce qui est arrivé à cette femme âgée du nom de Zineb, qui a été atteinte par un tir de flashball alors qu'elle se trouvait à la fenêtre, qu'elle observait ce qu'il se passait dans la rue. La famille a eu beaucoup de difficultés à faire reconnaître cette violence.
Donc lors d'une manifestation des Gilets jaunes.
Exactement. Et j'ai été, puisqu'on passe un certain temps sur Twitter, très marquée aussi par une polémique qui s'est déroulée il y a peu de temps et qui révélait le regard, l'appréhension qu'une médecin en hôpital, aux urgences, si ma mémoire est bonne, portait sur les personnes qui venaient la voir, et en particulier les femmes pauvres, en particulier les femmes pauvres migrantes ou du moins racisées, ne savant pas forcément parler français. Elle tenait des propos très difficiles en disant qu'elle était accablée par ce type de patients, qu'elle se parlait à elle-même pour essayer de se convaincre qu'il fallait malgré tout les soigner. Et elle mettait en parallèle ce dégoût dont elle témoignait jusqu'alors de manière très, très naïve, avec le fait que ces personnes-là, en l'occurrence une vieille femme, l'appelaient souvent « ma fille ». Et elle disait être insupportée par le fait que cette vieille patiente lui disait « ma fille, merci ma fille ». Et elle disait « c'est insupportable qu'elle m'appelle ainsi, je ne suis pas sa fille, nous sommes à l'hôpital, tout ça est très sérieux ». Et on ne peut que mettre ce type de témoignage raciste et extrêmement violent
et classique avec
les statistiques liées au traitement médiocre qui est réservé à une certaine partie de la population, comme si finalement la valeur sociale d'une personne venait indexer la qualité du soin qu'il recevait. Donc je trouve que ça met aussi en perspective la problématique du soin médical et l'histoire de la médecine avec toutes ces hantises.
C'était super violent la manière dont elle le disait.
Ouais,
quoi.
Enfin, extrêmement.
Mais d'autant que le personnel hospitalier a de très bonnes raisons de se plaindre, mais pas celle-là, quoi.
Exactement.
Ça, c'est clair.
Exactement.
Et toi, Pauline, qu'est-ce qui t'a mis en boule ?
Ça, c'est extrêmement choquant. Il y a autre chose qu'on a dit beaucoup ici, mais le manque de moyens, en fait, pour lutter contre les violences au sens large, les violences conjugales, les violences sexuelles. Donc, malgré un Grenelle sur le sujet, qui était peut-être plus médiatique qu'autre chose.
Quelle surprise !
Et donc, avec 100 véritables enveloppes de budget supplémentaires, alors que les associations demandent 1 milliard d'euros. Il y a aussi, les violences policières contre les manifestants, les manifestantes des mouvements sociaux. Il y a eu le cas, effectivement, de la mort de cette femme dont tu as parlé, Kaoutar. Et puis, David Dufresne, le journaliste, lui, il a dénombré aussi 316 blessures à la tête, 25 éborgnées, 5 mains arrachées. Donc, voilà. Et récemment, il y a aussi eu des témoignages de ces violences pendant la manifestation du 5 décembre, avec 3 blessés, dont des photographes. Et puis, il y a eu aussi un homme frappé, matraqué au sol par des policiers. Donc ça donne la nausée aussi. Et toi, Anne-Laure ?
fait le point avec ce que tu viens de dire. Le fait aussi qu'il y ait trois étudiants d'une école de journalistes qui ont été arrêtés.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, ça c'est un truc de, enfin, c'est un truc de malade.
Il y a marche d'une manifestation, ouais.
Je sais pas dans quel monde on est en train de se diriger, mais bon, bref, c'est un peu ridicule comme expression. Alors, moi, je dirais que j'ai été vraiment hyper énervée parce qu'il y a une série sur Netflix sur l'affaire du petit Grégory. Et dans cette série, il y a un policier qui se permet des commentaires immonde sur Christine Villemain. En gros, il lui dit qu'elle était excitante.
Donc la mère du petit Grégory.
La mère du petit Grégory. Au moment où il rediscute justement de la possible culpabilité de cette femme, il dit qu'il a eu cette intuition. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un petit haut moulant et parce qu'elle était excitante.
Oui, c'est incroyable. Surtout qu'il dit ça a posteriori sans remettre en cause ses propos.
Et c'est aussi important qu'ils aient gardé ça au montage parce que ça montre vraiment qu'à cette époque-là, dans ce fait divers, elle a porté toute la culpabilité de la mort de son fils parce qu'elle était érotisée par la presse qui a pour le coup vraiment pas fait son travail.
Mais elle a été érotisée par la presse par exemple, mais elle a été par exemple complètement mystifiée comme
Marguerite Duras,
par Marguerite Duras aussi.
Marguerite Duras, mais dérapage.
Mais on voit ici le lien entre la trajectoire littéraire de Marguerite Duras et ses obsessions littéraires, la mère, la mort de l'enfant et la manière dont elle a orienté aussi à sa manière
et fictionnaliser ce fait divers. Et en parlant de fait divers, un autre flop, l'affaire du pont de Ligonnès.
Ouais.
Quelle déception.
Fail.
Franchement, c'était vraiment un gros fail, quoi.
C'est un énorme fail. Et puis encore une fois, super, les journalistes ont pris la culpabilité. Tout le monde a dit les journalistes ne font pas leur travail. En l'occurrence, c'était la police qui n'avait pas fait son travail. Donc voilà. Je sais pas, toi Clémentine, est-ce que tu as eu le poil hérissé? Moi, je pense que oui.
Oui, alors moi, je voudrais pointer le doigt cette année, toujours en direction des hommes, et surtout des hommes cis blancs hétérosexuels. Parce que je regrette profondément qu'ils ne se soient pas saisis des questions post-MeToo, qu'ils ne prennent pas la parole pour dire qu'ils sont ou qu'ils ont été agresseurs ou agresseurs sexuels. Je trouve qu'ils se déconstruisent assez peu, qu'il y a très peu encore de groupes d'hommes pro-féministes. Ça reste vraiment des cas trop isolés. Donc voilà, grosse déception, mais on n'est pas surpris. Et je trouve que justement, cette période pourrait être propice à la réinvention. Voilà, donc les mecs, saisissez-vous de cette opportunité pour vous réinventer. Il n'est pas trop tard. Et Pauline, est-ce que tu as autre chose à ajouter à cette année de merde?
Ouais, encore un truc un peu corpo, désolée, je parle beaucoup de journalisme, mais en même temps, je pense que ça a sa place. Ce qui m'a choquée aussi cette année, c'était la convocation devant la DGSI de journalistes, en fait, qui avaient enquêté sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen.
Ouais.
Et donc ça, c'était absolument hallucinant. Et d'ailleurs, Reporters sans frontières a parlé d'une tentative d'intimidation des enquêteurs et des enquêtrices.
Ouais.
Et puis sinon, je voulais aussi citer le harcèlement qui continue contre les femmes voilées, notamment après cette affaire donc de l'élu RN, cet élu RN qui a pris à partie une femme devant son fils lors d'une visite scolaire dans un conseil régional et qui a encore suscité son lot de commentaires haineux. Donc ça, on peut dire aussi que chaque année, il y a encore ce genre de choses.
C'était un moment de grâce en 2019.
Et surtout plébiscité par le pouvoir qui a du coup pris une décision pour interdire le port du voile.
Oui.
Ça a été retoqué, mais...
En sachant que LREM, ils ont essayé de faire un peu leur chevalier blanc face à l'élu du Rassemblement National, c'est-à-dire Front National en gros, et alors que t'avais le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, qui faisait des polémiques bidons sur les femmes qui portent le voile, qui...
En accompagnement.
Enfin, qui, je rappelle, sont même bénévoles et s'occupent d'enfants. Déjà,
surtout, c'est même pas les femmes, c'est les... Maman.
Ouais.
Donc attention, pas des vraies personnes.
Ouais, c'est même pas
Le fait que, justement, comme tu dis, le fait que ce soit une maman et que parfois ce soit des mamans, je trouve ça très intéressant parce que il y a quand même toute une partie du féminisme ou des féminismes qui se sont appuyés sur l'idée nous ne sommes pas que des mères, nous sommes aussi et avant tout des femmes. Je trouve que face à ce type de situation, c'est intéressant aussi de se dire l'inverse. Elles ne sont pas que des femmes, elles sont aussi des mères.
Mmh.
Et cette situation-là, elle vient troubler un féminisme majoritaire qui oublie à quel point la question de la maternité est absolument centrale dans l'expérience féminine, qu'on soit mère ou pas d'ailleurs. Mais la question, elle est évidemment posée et elle pose des questions fondamentales. Et je trouve ça intéressant, ça vient perturber l'équilibre de ces jolies pensées féministes très auto-centrées, très propres.
Et toi, Clem, c'est quoi tes autres flops de l'année 2019? Parce que je pense qu'il y en avait pas mal.
Ouais, il y en a tellement, c'est difficile de faire le tri. Je pense qu'il faut quand même rappeler que le burn-out militant fait des ravages dans nos rangs. notamment du côté de Peeta Schneck, qui a décidé de raccrocher et de prendre ses distances. Mmh. Il faut bien rappeler que les associations aussi qui s'occupent des violences sexuelles et sexistes sont à bout de force, n'ont pas d'argent et très très peu d'effectifs. Donc,
c'est pour ça que c'est encore plus révoltant de voir des espèces de cinéma médiatique autour des associations de violences faites aux femmes, alors qu'en vrai, c'est pas leur taf. Enfin, normalement, ça devrait être l'État qui devrait faire ça, en fait.
Et cette année, j'ai aussi vu passer pas mal de livres consacrés au féminin sacré. Et je me suis beaucoup demandé qu'est-ce. Voilà, peut-être qu'on en fera l'objet d'un épisode, je ne sais pas. Bon, et alors passons à l'étape suivante. Est-ce qu'il y a une femme qui a particulièrement marqué cette année pour vous, qui serait la meuf de l'année, toi, Kaoutar?
Je pense assez spontanément à Assa Traoré et au collectif qui la soutient, qui l'accompagne pour son combat. Je trouve que ce qu'elle est parvenue à faire politiquement, les formes, même si j'aime pas cette expression, mais de convergence de lutte qu'elle a réussi à générer, qu'ils ont réussi à générer, est assez remarquable. D'autant plus que tout est à peu près ligué contre eux et contre elle en particulier. Donc je pense que c'est d'autant plus important de saluer son travail, de saluer leur travail, qui s'inscrivent en vérité dans un travail beaucoup plus long, beaucoup plus ancien, de lutte contre les violences policières par des collectifs nés, construits et situés en banlieue. Donc je trouve ça intéressant qu'elle pose aussi sa pierre dans cette histoire française. Et j'espère évidemment de tout cœur que justice pour elle, pour son frère, sera bientôt rendue.
Qui est Miss?
Alors, je voulais citer une personne, mais en fait, je vais citer les meufs de l'année. Pour moi, c'est, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les femmes grévistes, sur les femmes qui font la grève dans les hôtels de luxe, qui continuent notamment dans l'hôtel Ibis des Batignolles à faire la grève. Ça fait 6 mois qu'elles sont en grève. Je trouve ça extrêmement impressionnant.
D'ailleurs, il y a des cagnottes en ligne.
Tout à fait, il y a un pot commun, il y a une page Facebook aussi sur la CGT HPE. Donc, si vous pouvez les soutenir, effectivement, ce serait très, très, très bienvenu. Et je les trouve impressionnantes parce qu'en fait, je pense que là, on a vraiment l'illustration de ce dont on parle quand on parle, c'est pas d'intersexualité parce que c'est pas vraiment un adjectif, mais vraiment des personnes qui sont aux marges de la société, qu'on veut mettre au silence, qu'on veut nier leur humanité, nier leur dignité, parce que souvent ce sont quand même des femmes migrantes, primo-arrivantes, etc., et africaines. Et elles s'imposent, en fait, et elles disent, ben non, on va s'organiser politiquement, collectivement, pour lutter pour le respect, pour la dignité, pour une augmentation, une amélioration de notre vie. Et c'est en totale opposition avec la vibe politique dans laquelle on est, en fait. Et je trouve ça extrêmement impressionnant. Voilà.
Et toi, Pauline?
Bah, c'est un peu attendu, mais Adèle Haenel, pour moi, pour son courage de décrire ce qui lui est arrivé, la justesse de ses mots. Et je pense que grâce à elle, toutes les victimes se sentent moins seules. Donc rien que pour ça... C'est la meuf de l'année.
Bravo Adèle.
Toi, t'es d'accord, Anne-Laure?
Je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr, et avec vous toutes, parce que franchement, on est peu, mais on est fortes. Moi, je donnerais le nom d'une personne qui n'est pas hyper connue, mais derrière elle, elles sont nombreuses à partager sa situation. Ma meuf de l'année, c'est Delphine Bauer, qui est ma collègue au collectif YouPress. Elle est mère célibataire, elle est pigiste, elle est précaire, et elle a mené de front la lutte pour le collectif Ras la Plume, donc la lutte pour la déprécarisation des pigistes, en faisant tout en même temps. Enfin, moi, je sais pas comment font ces personnes pour être mère et de bonnes mères. Je la vois qui concocte des petites purées, tout en pensant à ces sujets, tout en gérant sa vie. Moi, j'ai une admiration sans nom pour elle et pour toutes les femmes qui partagent sa vie.
Respect.
Et toi, Clémentine, c'est quoi ta meuf de l'année?
Bon, moi aussi, j'allais dire Adèle Haenel, mais c'est pas... Voilà. on est toutes d'accord. Donc sinon, je dirais Greta Thunberg. Tu l'as dit, Anne-Laure, qui est donc personne de l'année pour le magazine Time. Parce que voilà, voir une ado qui a le syndrome d'Asperger fermer sa gueule à de vieux mâles, je trouve ça vraiment très cool. Ouais. Et c'est vraiment une des choses qui m'a apporté le plus de joie et de réconfort cette année.
My message is that we'll be watching you.
Voilà, de la voir sur son bateau, dans son train, avec sa petite valise.
En plus, là, elle a dit récemment à la COP25 qu'elle avait envie de se mettre en retrait et de laisser faire parler que les journalistes s'intéressent aux autres personnes. Donc, elle est tellement... Elle est parfaite.
Elle est parfaite, on est d'accord.
Du coup, Clémentine, est-ce que tu as décidé de mettre des petits cadeaux dans ta petite hotte ou pas du tout? Tu as décidé d'être radasse?
Oui, c'est ça. Fais du garde-la-thune. Non. Alors, je pense qu'il faut d'abord rappeler que si vous faites des cadeaux de Noël ou de fin d'année, de Noël laïque ou autre, de ne pas oublier de donner à des associations, si c'est ce que vous voulez, plutôt que de faire des cadeaux. Donc, allez-y. Il y a beaucoup d'assos qui ont besoin de sous. Si vous cherchez des cadeaux féminins, il y a pas mal de jeux qui se sont créés cette année. On peut citer notamment Bad Bitches Only, qui est une sorte de Time's Up féministe. Je pense qu'on peut également, moi je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien le lire, acheter le livre de Olga Tokarczuk, qui est donc prix Nobel de littérature. Je pense qu'il est quand même temps de s'y intéresser. On peut aussi offrir Girl, le livre de Edna O'Brien, qui est la grande gueule des lettres irlandaises. Et pour les enfants, moi j'avais été faire un tour au salon de la littérature jeunesse de Montreuil, et du coup je recommande toujours le classique Princesse Caca d'Anouk Ricard. Ouais, un grand classique qui fait mouche.
Mais tous les Anouk Ricard, en vrai, ça devrait être des cadeaux.
Obligatoire. Et toi,
moi, pour Noël, ouais, je vais offrir en masse le roman Croire aux fauves de Natacha Martin, qui est sorti aux éditions Verticales. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui se fait attaquer par un ours et elle raconte les changements que ça a sur elle. Okay. C'est une merveille. Il y a Joanne Spark qui a sorti une BD qui s'appelle Hawaii, qui est très, très bien aussi. Énorme, mais passionnante. Il y a le super roman La petite conformiste de Ingrid Seiman, qui est sorti chez Philippe Ray. Là aussi, on est toutes concernées, je pense. C'est l'histoire d'une personne qui est née dans une famille très rigoriste, très de droite. Et en fait, c'est elle est complètement à l'inverse. Donc, elle raconte ce rapport-là. Je dirais que offrir un abonnement à Mediapart,
c'est pas du luxe.
C'est pas du luxe. Ça coûte pas cher pour ce que c'est. Enfin, honnêtement.
Ouais.
Tout le monde croit que c'est trop cher, mais c'est pas
vrai. Soutenez la presse.
Ouais. Et en plus, c'est des gens qui se sont débrouillés pour qu'une camarade ait un congé mater. Donc, voilà, politiquement, c'est nickel. Et je dirais l'album de Compromat pour bien faire saigner les oreilles des parents. Et le livre de Christiane Taubira pour les consoler.
Oui. Et toi, Pauline?
Comme je ne vais pas offrir de cadeaux cette année vu que je voyage, parenthèse, c'est bien les voyages aussi contre les discussions oppressantes familiales.
C'est clair.
Et donc,
et les mains au cul de vieux tontons bourrés.
Mais quelle horreur.
Quelle horreur. Ça m'est arrivé moi aussi.
Mon Dieu, secours.
C'est le bingo des...
Voilà, voyager Noël.
Partez loin.
Voyager. Et donc, j'ai plutôt des recommandations pour la rentrée 2020, donc le manuel d'activisme de Clit Révolution, le livre « Mauvaise troupe sur les dérives de l'armée française » de Justine Brabant et Leila Mignano,
oui,
du collectif Les Journalopes pour Justine, donc encore un peu de promo. Et puis « Rebellez-vous », coécrit par Marie Laguerre et Lorraine Descartes, également du collectif Les Journalopes. Maintenant, j'arrête la promo. Et en cadeau, j'offrirai, moi, le livre de Clarence Edgar Rosa, « Connais-toi toi-même », publié chez La Musardine. Donc, c'est un magnifique petit guide d'auto-exploration du sexe féminin, illustré par Suzy Q.
Parfait, au pied du
serpent. Et puis, le livre de Victoire Toyon, « Les couilles sur la table », qui est en train de devenir un must-read.
Ouais, pour déconstruire sa masculinité, même pendant les fêtes. Voilà. Toi qui es Miss?
Alors moi, pour les anglophones, je recommanderais un essai qui s'appelle « Pleasure Activism ». C'est un essai qui a été... donc en fait, c'est la théorie slash un témoignage d'Adrienne Marie Brown. J'aime trop ce type, la non-fiction, quoi. Qui est une féministe noire américaine qui nous explique comment le fait de centrer sa vie autour du plaisir au sens large lui a permis de penser les questions de justice sociale, de féminisme, de sexualité, du rapport au corps, d'écologie, etc., etc. Donc, je trouve super bien. Ensuite, je vais faire une roco pareil, parce que il y a ma pote Laura Safou qui va sortir son livre, du coup, en janvier, début janvier, qui est sur le colorisme. Donc, j'invite tous et toutes à courir en librairie dès qu'il sera sorti. Et puis, il y a le jeu que j'ai pas encore commandé, mais que je recommande et que je vais sûrement commander pour Noël, du Chip, le jeu de société que je recommande aussi sous le sapin. Et toi, Kaotar?
J'avoue que je suis vraiment pas douée pour offrir des cadeaux. Je suis très 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 peu d'idées.
Et sinon, comme auto-cadeau,
mais sinon, non, très sincèrement, je fais de très belles cartes pour accompagner les cadeaux. Donc, généralement, je demande voilà, à des gens de
c'est
m'aider.
Personnalisé.
Donc, voilà, donc vos recommandations vont m'être très très précieuses. Et j'offre plus facilement un café, en fait, des choses. Enfin, voilà, les cadeaux, c'est un peu compliqué pour moi.
T'inquiète pas, on te traite pas de radasse.
C'est gentil. Non, parce que les cafés peuvent coûter super
c'est clair, mais où est-ce que vous allez prendre des cafés?
Et hier, j'ai payé mon café à 9 euros, par exemple, tu vois.
Ouais, mais t'étais où?
Ça fait cher,
c'est
ça
dingue.
Fait cher.
Ouais. Mais sinon, plus sérieusement, je suis en train de lire Un homme qui meurt de Baldwin, que je connaissais pas du tout, et que je trouve vraiment, vraiment très beau. Donc voilà, un cadeau sympa et à point nommé pour la période que nous vivons.
Et alors, pour parler un petit peu de l'année 2020 qui se rapproche, qui se profile, est-ce que vous avez des prévisions ou des bonnes ou des mauvaises résolutions d'ailleurs? Toi, Pauline, qu'est-ce que tu souhaites ardemment?
Je crois que j'avais dit la même chose l'année dernière.
Mais ça n'arrive jamais.
Mais j'aimerais bien, on y a presque cru avec le film de Siamam, mais non, c'est encore raté. Non. C'est bon Django qui l'a eu, mais j'aimerais bien que cette année, une palme d'or soit remise à une femme au festival de Cannes.
On ne perd pas espoir.
Voilà.
Il y aura Polanski.
Sinon...
Tu quoi?
Troll.
Pardon, excuse-moi pour ce troll, Pauline.
Ne t'inquiète. Et puis sinon, j'aimerais que les grèves actuelles fassent plier le gouvernement.
S'il te plaît, petit Papa Noël, petite Mère Noël.
Que les suppressions de postes et les coupes budgétaires à Radio France cessent, parce que nos consoeurs et confrères sont aussi en grève là-bas. J'aimerais que la grève continue et que la grève des... Enfin, sauf pour les transports, mais bon, on va quand même les soutenir, bien sûr. Et que la grève des femmes qui se préparent pour le 8 mars soit ouf, et j'ai hâte d'y être. Si ça se trouve, ça sera grève en continu jusque-là. Donc voilà, pour mes résolutions perso, continuer à prendre du temps pour moi et mes proches, et militer à ma manière, défendre mes sujets... avec les gens qui me font confiance, pas de temps pour les autres, et faire un bilan avec ma psy.
Self-care.
Ouais, concrétiser mon projet de livre, dont je vous reparlerai bientôt. Voilà,
trop bien.
Ça, c'est la partie un peu individualiste.
Et toi, Kaoutar, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020?
Que la lutte continue, qu'on soit toujours plus nombreuses à prendre la parole, qu'on soit de plus en plus nombreuses à parler de soi, à parler de nous, qu'on rende compte de nous-mêmes, de nos expériences, qu'on continue à multiplier aussi peut-être les foyers d'expression, qu'on invente des espaces mixtes, non mixtes, pour gagner des instants de réflexion, et que toutes les personnes précaires, peut-être, envahissent l'Académie française.
Oui.
Ils ont beaucoup de temps, ils ont beaucoup d'espace, ils ont de très belles vues. Donc je me disais que voilà, on est habitué à envahir les amphithéâtres des universités, c'est très bien. L'Académie française est aussi un espace à envahir.
On y pense.
J'adore. Toi, Clémentine?
Alors moi, j'espère qu'on va enfin parler de plus en plus de violences masculines, quand on parle des violences faites aux femmes, et qu'on va s'intéresser aux agresseurs et aux manières de les empêcher d'agresser. Je pense qu'il est temps. Sinon, j'ai aussi prévu, un de ces quatre, d'aller visiter le tout nouveau musée du vagin qui a ouvert à Londres. Voilà, ça me fera une excursion. J'ai aussi hâte de voir Lashana Lynch dans le prochain James Bond, mais aussi la saison 2 de la série Sex Education, dont on en avait parlé dans un épisode court, qui va être diffusé là dès le mois de janvier sur Netflix. Et du côté des résolutions personnelles, je vais m'occuper de mes émotions, car self-care first. Voilà. Car elles vont être mises à mal, j'en suis sûre, l'année prochaine.
Mais nous sommes là.
Oui, et toi, Anne-Laure?
Moi, je voudrais déjà être heureuse de la non-réélection de Trump.
C'est bien, t'anticipes.
Je me fourre le doigt dans l'œil. Mais...
ouais. J'aimerais...
Ah, mais tu sais, ça va être horrible. Je pense que je vais tomber dans la dépression à cause de ça, mais bon, soit. J'aimerais qu'on continue de gagner du terrain, hein, comme on a tous dit, c'est important. Par exemple, j'aimerais que l'association des journalistes LGBT dont je fais partie, la JL, ait 300 adhérents l'année prochaine. Ça pourrait. On est 164.
Ouais.
On gagne du terrain. Oui. J'aimerais que la loi sur la PMA passe au Sénat et surtout soit mise en pratique, hein, puisque ça pourrait
prendre... Pas trop tôt depuis le temps qu'on en parle.
Voilà. J'aimerais aussi que les personnes trans soient réintégrées dans cette loi. Je pense là aussi que je me fourre le doigt dans l'œil, puisque les personnes trans sont vraiment systématiquement destinées à ne pas être parents, par la France décide de ne pas en faire des parents.
Oui, et jamais une priorité d'aucune politique.
Exactement. J'aimerais que les services d'adoption cessent d'être discriminants avec les personnes et les couples non hétérosexuels. Enfin, ce serait un peu sympa, parce que surtout la loi nous autorise à adopter.
Et j'aimerais que les Gilets jaunes continuent à remuer bien la merde tous les samedis, parce que ça fait du bien. Et je crois de mon vivant ne pas avoir vécu un événement aussi fort et qui m'a permis moi aussi de me remettre en question aussi, parce qu'on a tendance à oublier parce que c'était il y a un an. Mais au tout début, nous, parisiano-centrés, bobos de merde, on a pu avoir un opinion hyper négatif au départ.
Un mépris.
Et c'était super cool de pouvoir grandir avec les Gilets jaunes. Voilà.
Kémis ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai envie que la gauche antiraciste, écolo, féministe, pour les droits des personnes LGBTQI, gagne, en fait. J'en ai marre de perdre. Tout simplement, j'ai envie qu'on ait des meilleures vies, tout simplement. J'ai envie d'améliorer notre niveau de vie, finalement, qu'on ait une vie plus juste, plus belle. Enfin, c'est un peu niais, ça fait un peu concours de Miss France, mais en fait, c'est vrai. Et j'ai envie en fait que ces exaspérations, ces frustrations, ces blessures et ces violences finissent par aboutir sur une nécessité en fait de renverser la barre et de vraiment ça fait 40 ans de néolibéralisme là, franchement ça a plu à un moment, c'est bon, passe ton tour quoi. Et puis ensuite pour 2020, là c'est quelque chose de plus personnel, j'ai vraiment envie de me débarrasser de ma peur d'être médiocre et de mon syndrome de l'imposteur, j'en peux plus. Je souhaite ça à vraiment à toutes les personnes qui sont minorisées et qui ressentent ça, parce que franchement c'est, en tout cas personnellement pour moi, mais je pense pour beaucoup de gens, c'est très paralysant.
Et je peux me permettre?
Ouais, bien sûr.
Je suis allée voir un spectacle qui s'appelle Imposture.
Ouais.
D'une super marionnettiste qui s'appelle Lulu.
Ouais.
Elle va tourner et justement elle parle du sentiment d'imposteur. Elle est grosse, lesbienne et marionnettiste. Elle dit ça fait un peu beaucoup pour une personne. mais je te donnerai les références.
Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, parce que je pense qu'on a besoin vraiment de ces outils-là. Et je sais que c'est pas juste quelque chose de d'individuel. En fait, je pense que c'est un système aussi qui veut aussi te faire sentir comme si t'étais pas assez ou trop, etc. Et du coup, je pense beaucoup à ce que dit Marie Da Silva, qui est la super coach à Uncally Works, quand elle dit qu'en fait, on doit s'applaudir du chemin parcouru. On regarde souvent ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, et pas d'où on vient et ce qu'on a fait pour arriver où on est. En gros, et je pense à la phrase d'Audrey Lorde qu'on a déjà citée dans un autre podcast, beaucoup d'entre nous n'étaient pas censés survivre. Donc, bravo à nous quand
on
même.
S'applaudir. Félicitations. Et alors, on ne peut pas évidemment clore cet épisode sans des prédictions à la Nostradamus, c'est-à-dire des prédictions d'astrologie chinoise pour 2020. Alors, 2020 sera l'année du rat de métal. Qu'est-ce à dire? Donc, le rat animal malin et relationnel qui se focalise donc sur l'honnêteté, le pragmatisme. Mais n'oublions pas qu'on va être en année électorale. Donc, voilà,
on garde. Votez à gauche dans les municipales, s'il vous plaît.
On garde le troisième œil ouvert. Paraît-il, ce sera une bonne année pour épargner des sous. Donc, à vos bas de laine si vous avez des sous, voilà. Selon le site Asia Flash, donc une référence en matière d'astrologie, ce site nous met en garde, je cite, « Sur le plan politique et social, il faudra s'attendre à des rebondissements stupéfiants. La politique politicienne battra son plein, oulala. Bon nombre de personnalités que vous croyez honnêtes se démasqueront et vous décevront brutalement. »
Ça, c'est de le voir, ça.
Voilà, donc on s'attend au pire. En attendant, on vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et nous, on se retrouve donc au mois de janvier. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Nous suivre sur les réseaux sociaux @quoidemeuf. Voilà, salut. Merci les filles.
Salut. Et bonne fête.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté par Kévis,
Kautar Archi,
Pauline Verduzier,
Anne-Laure Pinault.
Monté et mixé par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son Studio Penny Lane, coordination Ashley Tola.